Vous avez vu les petits masques blancs qu'on porte au Mexique pour se protéger de la peste porcine? Eh ben, si on met ça sur notre petite tronche vendredi 1er mai pour défiler, c'est-ils qui vont nous arrêter? Hein? Ou peut-être c'est-ils qui vont interdire la manifestation du 1er mai pour qu'il n'y ait pas de contamination? J'en sais rien, ma foi. Salut à tous.
Salut Daniel et tous les auditeurs. J'ai peur. Tout ce week-end, la peur s'est répandue dans nos oreilles. J'ai craint le pire. Voilà que la grippe porcine H1N1 nous menace tous. Madame Bachelot a pourtant consulté le Health Security Committee. J'ai eu du mal à la comprendre en anglais primaire, mais ouf. La ministre de la privatisation hospitalière et le comité de sécurité sanitaire affirment ensemble que nous sommes à l'abri. C'est comme pour le nuage de Tchernobyl. Alors pourtant j'ai peur, car Madame Bachelot a laissé récemment revenir de leurs vacances mexicaines deux passagers sans les contrôler. Il s'agirait de Pepito et Carlita Sarkozy Bruni. Oui, j'ai peur d'une épidémie de grippe porcine sarkozyste ramenée du Mexique. Alors, fini la crise, les plans sociaux, même les 70 000 chômeurs de plus annoncés ce mois-ci sont cachés par le très opaque écran de fumée de cette grippe opportune. J'ai peur de cette épidémie, pandémie planétaire de grippe porcine sarkozyste. Au secours, Madame Bachelot, j'ai peur, j'ai très peur. Salut Daniel. Et bon courage, hein, la grippe est là. Hein. Faites gaffe, hein, la chopez pas. Hein. Salut.
Alors, dernière minute, aux amis de Lille, à la demande générale de Jacques, et afin de préparer le 1er mai, réunion exceptionnelle ce soir au café L'Imaginaire dans le Vieux-Lille. Venez nombreux pour tous ceux qui sont présents. Voilà, à bientôt.
Alors que des auditeurs vendredi exprimaient donc sur le répondeur leur bouleversement, leur écœurement face au mépris des actionnaires et des patrons du groupe LVMH vis-à-vis des salariés des petites mains de l'entreprise ECCE Poids du Nord. Celle-ci fabriquait des costumes de luxe Kenzo Givenchy portés par les plus grands de ce monde, les nantis, mais des nantis peut-être aux petits esprits. J'aimerais dire à tous les AMG que l'une d'entre elles est venue travailler dans le collège où j'enseigne. Elle venait nettoyer une salle de classe et l'on discutait un peu. Elle assurait un contrat aidé, renouvelable au bout de 6 mois. Elle est restée 1 an, corvéable, flexible, polyvalente à merci. Nettoyage des salles, des couloirs, des toilettes, cantine le midi pour une paix de misère. Payée 4 heures au SMIC, 20 heures par semaine. Mais présente tard le soir jusqu'à 20h. Cette année, je ne l'ai pas revue. D'autres l'ont remplacée. Qu'est-elle devenue? Jetée une première fois par LVMH, rejetée par le service public une deuxième fois, ça fait mal, très mal.
Oui, bonjour Daniel. Je souhaitais vous faire partager un petit texte que j'ai écouté hier soir de François Béranger. Alors voilà. Demain, 4 milliards de crèves-la-faim auront-ils seulement la force de rêver? De rêver qu'ils mangent? Qu'il mange un riche bien gras, bien rose, jusqu'à en crever, lui casser le crâne, percer la dure mer, boire jusqu'à la lie, la bonne matière grise, intelligence, d'où n'est pas sorti le désir, la simple idée de partager. Terre, terre, ma terre, ma dure mer, qu'avons-nous fait de toi? Qu'avons-nous fait de nous? Qu'avons-nous fait? Sur nos belles routes, les paysans arrosent de pétrole nos excédents par millions de tonnes, la bouffe invendue, d'or à jamais, dans nos autres pots géants. Terre, terre, ma terre, ma douce mère, qu'avons-nous fait de toi? Qu'avons-nous fait de nous? Qu'avons-nous fait? Voilà, c'était un petit hommage à François Béranger. Il a écrit ça en 1976. Bon courage à tous et merci pour tes émissions, Daniel. C'était François et Christine.
Le MEDEF voudrait des syndicalistes plus nombreux dans les entreprises, mais lorsqu'un jeune est syndicaliste, surtout au syndicat solidaire, eh bien, il n'a pas d'augmentation de salaire. Je prends le cas de Virgin, où les jeunes qui sont embauchés restent vendeurs en librairie et ont du mal à passer vendeur confirmé avec des augmentations de salaire. Voilà, c'est Claudine de Nantes. Porte Saint-Herblain, exactement. Bonjour, Daniel Mermet, au revoir.
Salut Daniel, salut les AMG, c'est pour annoncer la création d'un repère de là-bas, si j'y suis, à Briouze, dans l'Orne, entre Flers et Argentan. Je propose une réunion le dernier mercredi de chaque mois à 17h, donc le 29 avril cette fois-ci, au bar tabac Le Brazza, 22 rue du Docteur Petit à Briouze. Je répète, mercredi 29, 17h au tabac Le Brazza. Vous chercherez la table où il y aura le canard enchaîné. Pas de thème prévu cette fois, venez nombreux, à bientôt les AMG, c'était Claude.
Demandez Fakir. Salut Daniel, bah écoute c'est François, là je suis sur la raiderie d'Amiens ce dimanche. J'en profite pour diffuser un tract qui invite notamment à venir au débat que tu animeras à Amiens. Et puis sinon, je diffuse aussi notre premier numéro de Fakir national, voire international, puisqu'il est aussi vendu en Belgique. Là, je sais que c'est la journée des européennes sur France Inter, mais ça m'étonnerait que la rédaction révèle les mêmes scoops, les mêmes secrets que Fakir, sur, à savoir par exemple, un portrait de Jacques Delors en vallée des multinationales, ou un rapportage au Parlement européen, ce paradis des lobbies. Donc voilà, tu pourras trouver tout ça et bien d'autres choses. Sur cette Europe de la crise, une crise et une Europe fabriquée par les médias, les patrons, les PDG et les banquiers, sur lesquels on a enquêté, reporté dans l'histoire, dans le présent. Et ben voilà, tout ça c'est dans notre numéro de Fakir, en vente, à côté de chez toi. Salut Daniel, ciao.
Eh ben oui, c'est ça l'événement Fakir national. Le journal de François Ruffin est en vente partout. À l'occasion des élections européennes qui se profilent, François Ruffin a cassé sa tirelire et celle de ses copains et il se lance dans cette entreprise d'un journal national. Fakir, jusque-là, c'était le poil à gratter d'Amiens. Et là, ça va devenir le poil à gratter, et bien plus que ça, évidemment, national. Alors évidemment, on est très heureux et on soutient aveuglément le journal de François, précipitez-vous dessus et soyez très critiques et renvoyez-nous vos critiques au répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37. Nous sommes sur le retour de Boston à Paris et aujourd'hui, vous le savez, sur Inter, c'est une journée consacrée à l'Europe et surtout aux Européens et aux Européennes, bien sûr. Et je parie qu'on aura encore oublié les Tziganes. On a encore oublié les Tziganes. Et pourtant, les Roms, puisqu'on les appelle ainsi, sont les plus européens des Européens, eux qui parcourent ce territoire. J'hésite parce qu'on ne sait pas très bien où il s'arrête, ce territoire. Mais en tous les cas, ils le parcourent depuis longtemps en tous sens et hors frontières, puisqu'ils sont les nomades que nous savons, même si pour la plupart, ils sont désormais sédentaires, mais ils sont bel et bien des Européens, même si aussi on trouve des Roms un peu partout ailleurs dans le monde, aux États-Unis par exemple, et ailleurs également. Mais en majorité, ils sont d'authentiques Européens et nous ne savons pas grand-chose d'eux, sinon eh bien qu'ils souffrent, qu'ils sont persécutés, qu'ils le furent. On va évoquer à nouveau le génocide des Tziganes, mais pas seulement, c'est une culture, c'est un monde, bien évidemment, c'est plusieurs mondes à la fois, qui est curieusement plusieurs et en même temps un seul, quelque chose de commun. Voilà la contribution de là-bas, si j'y suis, à cette journée des Européens. C'était une émission du 28 janvier 2005, de laquelle nous sommes partis pour vous présenter celle d'aujourd'hui. Un hommage, évidemment, une pensée tendre pour Macha Béranger, qui a disparu. Vous avez été nombreux à laisser des messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, et beaucoup d'entre vous se souviennent de la façon dont Macha Béranger parlait de son éviction de France Inter il y a 2 ans. Ça avait été pour elle une très grande humiliation. Elle avait pris ça très très mal et elle souffrait beaucoup de la façon dont les choses s'étaient produites. Hommage donc à cette femme qui fait une très grande voix de la radio et en plus une amie. Aujourd'hui donc, les Roms, Samoudaripen. Vous allez découvrir un mot, Samoudaripen, découvrir un mot pour la plupart d'entre vous et un autre, Latchodrome, Latchodrome. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la bassiste. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Tu vois, Agnès, tu vois, Daniel, ce qui m'a dégoûté dans la levée de boucliers contre la séquestration des patrons, c'est que brusquement, des tas de commentateurs, et même des commentateurs de gauche, et des politiciens de gauche, se sont posé la question de l'atteinte à la dignité. À la dignité humaine. Mais ce que je me suis dit, moi, c'est qu'il fallait se la poser avant, la question de l'atteinte à la dignité. Et que toute la politique, toute dans tous les secteurs qui est menée par le gouvernement, notamment, plus particulièrement, depuis 2 ans, c'est une atteinte permanente à la dignité humaine. Mais là, les gens, ils s'en rendent pas compte, quoi. Et c'est toujours le même réflexe, finalement. C'est-à-dire les gens qui sont au pouvoir, quel que soit leur bord, ils ne découvrent l'atteinte à la dignité que lorsque les institutions qui les protègent, eux, sont menacées. Alors attention, il ne faut pas toucher aux institutions parce qu'il pourrait arriver n'importe quoi. Ils pourraient même nous renverser, ces gens-là. Bon. Par contre, l'atteinte à la dignité des particuliers, des individus, des personnes, dans leur travail, par rapport à leur santé, dans leur formation, dans tout ce qu'une collectivité est censée donner aux individus, alors là, on ne s'aperçoit pas que c'est une atteinte à la dignité. On dit, oui, c'est un peu injuste, il faudrait une politique plus un peu plus juste. Mais ils n'en ont rien tiré, quoi. Merci en tous, si les institutions sont menacées, alors là, croyez-moi, là, ils s'aperçoivent que la dignité humaine existe. Et ça, ça me donne envie de gerber.
Le repère du Pays d'Aix en Provence se tient mardi 28 avril à 19h30 au bar Le Festival, en bas du cours Mirabeau, près de la Rotonde. Le thème choisi pour demain est l'état des lieux des résistances au système dominant, associations, organisations politiques, citoyennes, etc. Au revoir, merci.
On a tout simplement, tout d'abord, porté les Tziganes au nu et loué leurs qualités et leurs dons qu'ils avaient sur le plan musical et qui, en partie, se vérifiaient. Mais d'un autre côté, on a toujours pu constater que d'un point de vue moral, c'était des misérables minables. À Auschwitz, c'était tout simplement et tout simplement, de haut en bas, on les a tous envoyés au gaz. C'était la seule solution. Tous sont allés au gaz, sans exception. Il y avait parmi eux des gens extrêmement qualifiés qui, pendant la guerre, avaient été officiers. Mais tous ont été envoyés au gaz. Même ceux qui avaient été considérés comme personnages particulièrement importants. Mais tout simplement, du point de vue de la discipline, il n'y avait pas d'autre possibilité à Auschwitz.
Ainsi parlait en 1998 Hans Münch, le dernier médecin nazi d'Auschwitz. En 1998, ainsi il parlait des Tziganes qu'il avait croisés, qu'il avait vus dans le camp d'Auschwitz, puisque le camp des Tziganes, le Tsigoyner Lager ou Familienlager, était très très proche de la fameuse rampe. Hans Münch, qui nous avait dit à quel point Mengele, le docteur Mengele, qui était à la fois son confrère, était resté son ami tout au long de leur vie à Raïsko, au laboratoire de Raïsko, et comment il en avait un bon souvenir. Parmi les Tziganes, les familles Tziganes qui étaient dans ce camp, les jumeaux et les nains, les enfants nains ou les nains en général, étaient prélevés et sur eux, Mengele, donc l'ami de Münch, faisait des expériences. Pour les propos que Münch a tenus, que je tenais à vous faire réentendre, il avait donc été condamné par un tribunal français. Ça nous donne un prétexte aujourd'hui, je crois, d'évoquer ce que fut la vie et la fin de ces Tziganes dans ce camp d'Auschwitz, et plus généralement la vie des Tziganes et la mort des Tziganes dans cette Europe de l'époque, et puis évidemment avec une pensée pour ceux d'aujourd'hui qui souffrent d'une ségrégation que vous connaissez chez nous, mais aussi à travers toute l'Europe. On a encore oublié les Tziganes. Salut, c'est Daniel Mermer avec Marcel Courtiade, Yetta Doka, Monsieur Bartosch et Awina Bourgues, Nachodrome.
Flight number 2, arriving from...
Ano świecim logar baro, odoj beshel mrodadoro, beshel taigo didel, Pevo jeske parokere Chachol cherheniori Mrede vleski momeliori Ai tu kalo ciri kloro Kalo jalut no ai koro
Auschwitz est un grand camp. Là-bas reste mon père. Il y reste et il pense. Son âme est oppressée. Elle brûle la petite étoile, la petite chandelle de mon Dieu. Toi, oiseau noir, noir, endeuillé et aveugle, emporte pour moi cette lettre. Et si tu ne peux pas soulever la lettre, qui est lourde, pleine de souffrance, alors étends tes ailes. Va chez mes frères et dis-leur qu'il y a ici un grand four, que le ciel est devenu fumée et qu'il a noirci toute la terre. Va, dis aux miens quel est ce malheur pour les Roms. Les SS nous ont attrapés, ils nous ont frappés et nous ont conduits ici. Ils nous ont enfermés par les portes, ils nous relâchent par les cheminées. Du camp, on ne peut pas partir. Frères et sœurs, jamais plus ne reverront. Ah Seigneur Dieu, mon Dieu, pourquoi manges-tu la tête du Tzigane ?
J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de faire un voyage à travers la Roumanie avec des Roms, et sur la trace des Roms de Roumanie. Et on était avec une Rome de Bucarest qui s'appelle Nora, qui est une chanteuse tout à fait formidable et qui nous a accompagnés, qui nous a guidés. Et on avait fait une petite plaisanterie entre nous, c'était de dire « on a encore oublié les Roms ».
Et on sortait toujours cette phrase-là, ça l'amusait beaucoup. Et alors, dans toutes les occasions, on disait, on a encore oublié les Roms. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir aujourd'hui, Marcel Courtiade, vous enseignez la langue romanie à l'INALCO à Paris, vous êtes commissaire à la langue et au droit linguistique de l'Union Romanie Internationale, vous allez nous dire ce que c'est, et vous avez amené avec vous Monsieur Bartosz, qui est polonais, qui vit en Pologne, avec qui vous avez fondé un musée, si j'ai bien compris, le premier musée Rome du monde.
Exactement.
Et puis, avec vous aussi, j'aurais dû commencer par vous, Madame Jetta Doka, vous êtes Rome d'origine albanaise, vous êtes lectrice de Romanie à l'INALCO. On va parler, Marcel Courtiade, des Roms ou des Tziganes. Quel mot faut-il employer, Rome ou Tziganes?
Ben, les véritables Tziganes ont disparu au XIe siècle. Il s'agissait d'une secte qui venait de Perse et qui est venue dans les Balkans. Donc il y a plus de Tziganes depuis 1000 ans. Mais le nom de Tzigane est resté dans la mémoire des paysans d'Asie mineure et des Balkans. Et lorsque les Roms, proprement dit, sont venus d'Inde au Moyen-Âge, ils ont réactivé ce vieux nom de Tzigane pour le coller aux Roms. Et ensuite, par analogie, confusion, extension, etc., le nom de Tzigane a été donné à plusieurs autres groupes qui n'ont rien à voir avec les Roms, qui sont effectivement d'origine indienne. Donc le mieux, c'est tout de même de sortir de cette confusion des paysans byzantins d'il y a 800 ans, pour maintenant parler des différents groupes avec leur propre nom. Donc quand on parle de Roms, ça peut être ambigu, parce que on appelle Rome, d'une part, l'ensemble des Roms proprement dit, des Sintes, encore appelés Manouches en France, et des Gitanes d'Espagne, mais on le réserve aussi parfois à ces Roms qui vivent en Europe de l'Est. Donc ici, Rome peut couvrir, dans le cas du génocide, peut couvrir les deux sens. Mais de toute façon, il est bien préférable à Tzigane, pour les raisons que j'ai dites. Alors, et aussi pour la raison que c'était le terme employé par les nazis, Tzigoiner, la Tzigoiner plague, la plaie tzigane, ou la peste tzigane, ou l'abcès tzigane, c'était les termes utilisés.
Ou Tzigoiner lager, qui était
le camp des tziganes, oui.
Alors justement, parlons de ce camp des tziganes, puisqu'on est sur ce thème d'Auschwitz. Il s'agit évidemment pas de rentrer dans cette sinistre et terrifiante compétition et concurrence des victimes. Et on dit oui, mais vous parlez des Tziganes, vous allez parler des Tziganes, vous voulez parler des Tziganes, alors qu'il n'y a que 20 à 25 000 Tziganes qui sont passés par Auschwitz, donc c'est peu. Et on entend ces phrases-là, oui. C'est des phrases absolument terrifiantes, mais on est dans une histoire absolument terrifiante. Alors, commençons par le passage des Tziganes à Auschwitz. Est-ce que vous pouvez évoquer ça?
Alors, Auschwitz est à la fois ce camp d'extermination, le Tzigoinerlager, le camp des Tziganes, c'est aussi un symbole. Parce que si on le replace dans l'ensemble de l'histoire du génocide contre les Roms et Sintes, ça n'a été qu'une petite partie du massacre. Il y a environ 25 à 26 000 Roms qui sont passés par Auschwitz, 23 000 est passé à Auschwitz, dont 21 a été exterminé sur place, 2 000 ont survécu, mais ça n'est qu'une partie de ce génocide, puisqu'il a eu lieu surtout dans les autres camps, notamment à Mauthausen, à Belzec, à Neuengamme, à Dachau aussi. Puis c'est à Dachau qu'ont été déportés les premières victimes Roms. Et il a eu lieu, ce massacre a eu lieu aussi dans les forêts. Les Allemands entouraient un groupe de Roms qui s'était caché dans les forêts et les massacraient sur place. Ou bien on a eu pas mal de massacres aussi qui ont été perpétrés par des mouvements politiques qui n'avaient rien à voir, en fait, qui n'avaient rien à voir de direct avec le Reich, par exemple, les Oustachis en Croatie, les Tchétniques en Serbie. Aussi, on a eu des exactions comparables en Roumanie, avec la déportation de 50 000 Roms de Roumanie au-delà du Dniestre, où beaucoup sont morts de faim, de froid, de maladies, etc. Les Ukrainiens aussi ont été encore plus zélés que la plupart des Allemands pour abattre les Roms. On a eu des massacres en Lituanie aussi. De ce fait, il n'y a pratiquement plus aucun Rome en Lituanie. C'est-à-dire que là, si je reprends le mot de plaie tzigane, c'est-à-dire la plaie qui a détruit les tziganes, cette plaie nazie qui a détruit les tziganes, elle dépasse très 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 largement Auschwitz. Le premier convoi de Rome arrivé à Auschwitz est de décembre 43, il venait de Belgrade, mais avant, plusieurs années avant, beaucoup de Roms avaient déjà été massacrés dans les autres camps. Il semble que parmi les premières victimes, on a eu 200 enfants qui avaient été raflés à Prague et qui ont servi de cobayes pour tester le Ticlone C, ce gaz mortel. Il a été d'abord testé sur 200 enfants roms qui avaient été raflés à Prague.
Alors, au total, aujourd'hui, quel est le chiffre des victimes de l'extermination?
Je voudrais pas parler très longtemps de polémique sur les chiffres, parce qu'il faut pas que la bataille des chiffres dans un sens ou dans l'autre fasse oublier le mécanisme. Et surtout le mécanisme à long terme, quand on reprend les années qui ont précédé le génocide proprement dit. Les chiffres s'étendent entre 220 000 victimes et plus d'un million de victimes. En fin de compte, tout le monde est à peu près d'accord pour parler d'un demi-million, de 500 000, c'est le chiffre qu'on trouve un petit peu partout. Et de toute façon, ça ne doit surtout pas être instrumentalisé pour faire une espèce de concours à la victimisation.
Alors, Martial Courtiat, ce mécanisme... Est-ce que vous pouvez l'évoquer? Parce qu'effectivement, là, on commence par parler d'Auschwitz, mais évidemment, il y a une histoire à ça. Est-ce qu'on peut replacer cette catastrophe dans une perspective historique, en quelques repères?
Le danger, évidemment, c'est de focaliser sur Auschwitz et de passer immédiatement à la partie la plus frappante et de tomber dans le sensationnel. Mais ce qui est au moins aussi important, en tout cas d'un point de vue pédagogique, c'est de comprendre tous les mécanismes qui ont abouti à cela. Et on a l'impression que c'était la tziganophobie, la haine des Roms, un petit peu partout en Europe, qui était latente, et que les Allemands n'ont fait que donner un signal de départ, puisque tout le monde s'est raillé, pratiquement dans toute l'Europe, sauf au Danemark et en Bulgarie. Tout le monde s'est raillé à cette folie de destruction des Roms, mais il semble que Hitler n'ait été qu'un catalyseur d'une tziganophobie très très largement partagée dans les différents pays d'Europe, à tous les niveaux. Depuis le peuple jusqu'aux dirigeants qui reflètent toujours plus ou moins les idées du peuple, même s'ils les manipulent particulièrement, certaines églises, etc., comme en Croatie. Et mais les Allemands ont fait office un petit peu de fureur là-dedans, de conducteur pour cette opération qui a tout de suite pris et qui a eu lieu dans certains pays bien avant que les Allemands n'arrivent. Par exemple, les Allemands sont rentrés en 39 dans ce qui est aujourd'hui la République tchèque, mais déjà en 38, on avait des quantités d'articles qui appelaient à la destruction des Roms, qui étaient d'ailleurs, ça s'appelait les Juifs noirs. Donc, vous voyez comment le lien était fait dès 38, et puis on a vu avec l'application des mesures de destruction des Roms, les journaux qui titraient avec triomphalisme « Telle région est enfin délivrée des Tziganes, Zbavieno Tzikano, telle région ». L'une après l'autre, on avait l'impression d'une épuration vraiment qui se faisait, et ceci dans l'euphorie de la presse.
Il y a ça encore, si on veut remonter dans le temps, il y a ça, la science a apporté son appui à tous ces fantasmes raciaux.
Oui, la pseudo-science du 19e siècle sur les débuts de l'anthropologie, qui était en fait l'idée de classer les races par une sorte de hiérarchie, depuis les races génétiques les mieux faites pour vivre, et puis celles qu'on devait soit coloniser, exploiter, et ensuite on a vu que l'idée est arrivée jusqu'à les exterminer. Et dans le domaine rom proprement dit, l'Allemagne a là aussi été une sorte de chef de file. À partir de la fin du 19e siècle, on voit apparaître une série de lois qui sont directement et nominalement adressées aux Tzigeuner, en particulier en Bavière. Auparavant, on parlait des gens vagabonds, sans feu ni lieu, etc. Mais à partir des années 1860-70, on a vu apparaître des véritables lois contre les Tzigeuner, et ça a été couronné par la Tzigeunerzentrale, la centrale des Tziganes de la police de Munich, qui était dirigée par un dénommé Alfred Dillmann, auteur d'un livre, le Zigeunerbuch, une espèce de catalogue de tous les Roms de la Bavière. On a plus de 5000 noms qui sont entrés, et c'est précédé d'une préface expliquant pourquoi on doit se méfier tout particulièrement de ces gens. Et contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, ce ne sont pas les vols de poules ou autres traits qui sont rentrés dans le folklore qui prévalent dans cette préface. L'accusation principale contre les Roms, c'est qu'ils n'ont pas de sang pur. Il est écrit que ce sont des gens qui, au départ, étaient à rien, mais qu'il n'existe plus aujourd'hui de sang pur tzigane. La plupart sont souillés par du sang tchèque. Alors pourquoi du sang tchèque? Sans doute à cause de la proximité de la Bohême. et qu'il n'existe peut-être que 2 ou 3 familles encore de sang pur en Hongrie et 5 ou 6 dans les Pyrénées, mais que tous les autres ont du sang impur. Donc on voit très bien comment à partir de là, cette tziganophobie qui était diffuse dans les foules allemande a pu se structurer autour de cette pseudo-science anthropologique et arriver à tous les prétextes qui ont été invoqués par les nazis pour détruire les Roms et qui en fait n'étaient que des prétextes, comme le montre la analyse.
Est-ce que les Roms résistent à tout ça?
Oui, il y a eu des mouvements de Roms, mais pas spécifiques. Les Roms, dans beaucoup de pays, se sont rentrés dans le maquis, chez les partisans, comme on dit là-bas. Et aussi, en profitant de cette position du Rom un petit peu, je dirais pas marginale, mais un petit peu particulière et spécifique, qui les mettait à la fois en danger, là où il y avait effectivement une politique de destruction des Roms, mais qui aussi leur permettait de circuler, de porter à manger. Ils assuraient toute une logistique dans certains pays, comme en Serbie, par exemple, en Albanie aussi.
En Serbie, ils ont soutenu la résistance.
Absolument.
Ce qui a donné aux Oustachis le prétexte des massacres.
Exactement. Et à certains tchétniques aussi, puisque les tchétniques, par exemple, ont été coupables de crimes dans le camp de Niš. Et évidemment de complicité avec les Allemands. Mais il y avait des Roms, par exemple, à Kosovska Mitrovica et Kosovas, qui étaient à la mairie et qui ont envoyé des rapports à l'occupant allemand en disant qu'il n'y avait pas de Roms, que les Roms étaient totalement inconnus dans leur région, ce qui a permis pendant plusieurs années de sauver ces Roms. Il y a aussi en Serbie des médecins serbes qui ont fait des déclarations, qui ont mis des quartiers anti-Roms en quarantaine, ce qui fait que les Allemands ne sont pas entrés parce qu'ils avaient peur d'être contaminés. Il y a eu toute une coopération entre Roms et partisans pour se porter aide les uns aux autres. En Albanie aussi, on a dans la famille de Yeta des femmes qui ont servi pour alimenter, pour porter aux maquisards de la nourriture, aussi bien pendant l'occupation allemande que l'occupation italienne.
Ça donne une occasion de parler avec Yeta Doka. Je rappelle, Yeta Doka, vous êtes lectrice de Romanie à l'INALCO, et donc Marcel Courtiade enseigne dans cette école.
Traducteur.
C'est votre traducteur.
Oui.
Dites-moi, je ne sais pas comment on va faire, si vous pouvez parler directement français ou si Marcel traduit, comme ça nous donnera l'occasion d'entendre votre langue. Quelle est l'importance de ce qu'on est en train d'évoquer dans la mémoire des Roms d'Albanie aujourd'hui?
Si vastno od te janen se tjerdilo jek festa akana palako mudaripe numa li pardile o Roma o gjuta o Roma nijek na li pardale barjo na mare qave të na janen kanq se na li pardina niki shkola niko drom, niko qer, niko katinde.
C'est extrêmement important parce que, comme on l'a vu, nulle part les Roms n'ont été cités et on n'a parlé que des victimes juives, si bien que les enfants n'ont aucune transmission de cette mémoire, ni dans les écoles, ni à la télévision, ni dans les maisons, ni dans la rue.
Τα καμάβτε τε πενάβ, σα βορέγγε, βία κατέ, βί, σα κοντανέστε, σα οσουνδάλ, μαγκάβτε πενάβ, σα βία γατζέγγε, κα βία μεν, τσατσέν ανέα μεν σκόλα. Αμα γοντισιάμεν, εισιάμεν χάτσα, τένα μπριστάς ο Σαμοντρυπέ Ρωμέγκο, τε τζανένε βία μάρε τσαβέ, καί βία μεν δαρισιμουδάρτε, να νουμαία καταροτζούτα.
Et donc, je veux dire, profiter ici pour dire à tout le monde, aux Roms et aux Gadjés du monde entier,
que nous aussi... Les Gadjés, c'est les non-Roms.
Les non-Roms, oui.
Gadjo au singulier, Gadjé au pluriel.
Gadjé, donc, et aux autres, si vous voulez.
Marcel,
c'est nous qu'on appelle les autres, en général. ici, c'est l'occasion d'appeler les autres, justement. C'est vrai que la plupart des Roms n'ont pas d'école, mais ils ont un esprit, une âme, etc. Il ne faut pas que leur génocide soit passé à l'oubli.
Est-ce que c'est quelque chose, Yeta Doka, est-ce que c'est quelque chose dont on parle chez les Roms d'Albanie, puisque vous êtes albanaise, avec les parents, avec les enfants, est-ce que vos parents vous en ont parlé, etc. Ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'on passe sous silence?
Poekfora na but, poekfora kaisi manush godiaver hatsa skolasar, li pardiola palako mudaripe, si kavene chavene tiknene.
On en parle un petit peu, pas très souvent, mais c'est surtout les gens qui ont été à l'école qui en parlent, parce que la transmission de principe se passe par l'école, donc il le dit à ses enfants.
Andre Kocher ki skolana.
à l'intérieur de la maison, pas à
ni télévision, ni scola, ni canche.
La télévision est totalement muette et rien du tout, uniquement le père et la mère qui peuvent le dire à leurs enfants.
Aujourd'hui, quand on a ces rassemblements de Rome, est-ce que c'est quelque chose qui est évoqué, cette mémoire-là?
Non. Να μου το βεν. Καί συνανάστε και η κοφερέντσα σο κιόρδεν ο πιρδάμ, χαλάμ, πιδάμ, σουνάμ, μπλα μπλα μπλα.
Les gens disent plus tôt, on est allé à une conférence à l'étranger, on a mangé, on a bu, c'était du blablabla.
Expliquez-moi, Marcel Courtiade, pourquoi cette mémoire est refoulée?
Historiquement, il y a eu beaucoup de causes qui se sont jointes pour faire suite à ce que disait Yedda Douka, que ces commémorations soient perçues comme du blablabla, c'est sans doute parce qu'elles ont un caractère beaucoup trop officiel, beaucoup trop rigide, et que ça n'est pas assez parlant, ça n'est pas le langage rome, si vous voulez, parce qu'il y a la langue romanie d'une part, mais il y a aussi le langage, la façon de parler, la façon de toucher le cœur, les sentiments, pas seulement par des chiffres ou par des atrocités, mais aussi enraciné dans l'individu, toute la relation par rapport à cette atrocité. Donc c'est la raison pour laquelle les conférences internationales sont souvent considérées comme du blablabla.
Quand avait à Strasbourg, Ternechave, pour la conférence, avait un gage qu'on a commenté Janen, soit ici, pour la commodarité que Romengo, n'a pas qu'un canche.
Il y a aussi un autre problème, c'est que souvent, comme à Strasbourg, ce ne sont pas des Roms qui sont envoyés par les Albanais aux conférences, ce sont des gadgets qui font ça uniquement pour le plaisir d'aller participer à quelque chose de prestigieux au Conseil de l'Europe, mais qui n'ont absolument aucun intérêt d'être dans la direction des questions Roms.
À partir de quand, justement, puisque vous parlez des gadgets, à partir de quand ce génocide des Tziganes ou des Roms, le génocide des Roms, a été reconnu par la communauté internationale et par l'Europe?
En Albanie, concrètement, la découverte a été liée à la projection du film de Alexander Ramati et les violons cessèrent de jouer, qui retrace la destinée de plusieurs familles roms sous le nazisme et qui finissent d'ailleurs, à l'exception de deux enfants, massacrés à Auschwitz. Et parce que avant, les Albanais savaient qu'il y avait eu un massacre des Roms et ils disaient « Hitler a eu tort de vous laisser vivants, de ne pas vous exterminer tous dans des moments de colère. »
Le peuple, poporul, the people, the folk, gitan, tzigan, gypsy, tzigonor, disparaîtra, dispare. Disappears, verschwindet, du monde, pe pământ, der erde. Alors, l'enfant, copilul, the child, the kind, nomade, nomade, renaîtra, revine. Comme zurück du désert, in der Schert, im Wüste. Vivra, rendie, geboren, du Souffle, Soufflul, Breath, der Luft, de la mer, Marie. Of the sea, des mers et de la terre, Chipamund lui, des bunds. Il, elle, he, er sauvera, salvesa, saved und hilft le monde, Pamundul. The world, the earth. Disparaîtra, renaîtra, vivra, sauvera. Disparaîtra, renaîtra, vivra, sauvera, disparaîtra.
Marcel Courtiade, on continue avec cette évocation d'extermination des Roms pendant la Deuxième Guerre mondiale. Racontez-nous ce qui s'est passé en France.
Alors en France, le régime de Vichy a devancé les volontés de Hitler dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres domaines. Il y a eu des rassemblements des Roms qu'on appelait nomades à l'époque officiellement, ou romanichels plus officieusement, dans une trentaine de camps, qui là aussi avait été totalement oublié pendant des décennies, jusqu'au jour où Monsieur Sigaud, un instituteur, a découvert des ruines à Montreuil-Bellay. À partir de ça, il a mené une enquête et il a pu ramener à la mémoire de tout le monde ce que les habitants du village ne voulaient absolument pas dévoiler. Et à partir de Montreuil-Bellay, un certain nombre d'autres camps ont été retrouvés, à Lierre et d'autres. Enfin, il y en a eu plus de 30.
Il faut rappeler que ces camps avaient été établis avant la Deuxième Guerre mondiale.
Ils avaient été établis souvent pour des réfugiés espagnols. Et les Roms ont été enfermés sous prétexte qu'ils étaient trop mobiles et qu'ils risquaient de donner des informations à l'ennemi. Mais ça aussi, c'était un prétexte. C'était simplement une façon de justifier plus ou moins administrativement la concrétisation d'une tziganophobie, d'une romanichélophobie, je pourrais dire même, qui était partout présente et qu'il est encore très, très large. Alors certains ont été envoyés en déportation en Allemagne, il y en a un certain nombre qui ont été massacrés dans les camps de la mort, mais un bon nombre aussi est mort de froid, de faim, de maladie, de manque de soins, etc.
Bien, alors je vais me tourner maintenant vers Monsieur Bartosz. Monsieur Bartosz, vous êtes polonais, et donc avec Marcel Courtiade, vous dirigez un musée dans le sud-est de la Pologne.
Et Museum,
Monsieur Courtiade, vous nous dites que c'est le premier musée rom au monde. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus?
Tak, idea utworzenia takiego muzeum zrodziła się już w 79 roku i od tego czasu zacząłem kolekcjonować wszelkie dokumenty, przedmioty związane z historią i kulturą Romów.
L'idée de la création de ce musée a déjà commencé en 1979 et à partir de ce moment, j'ai commencé à rassembler des objets liés à la culture et à l'histoire des Roms.
Vous êtes historien, vous...
Ja jestem antropologiem.
Il est anthropologiste.
Ale kieruje muzeum wielowydziałowym o bardzo różnorodnej tematyce.
Et il est directeur d'un réseau de musées avec des thèmes, des sujets très très variés.
Tam ta część poświęcona Romom jest jednym z fragmentów naszego wielkiego muzeum.
La partie qui est consacrée aux Roms n'est que un des fragments de l'ensemble du réseau de musées.
Quelle est l'importance de cette extermination pour les Polonais aujourd'hui dans la mémoire?
No, w pamięci Polaków, podobnie zresztą jak w pamięci Romów, ta zagłada właściwie nie miała miejsca do niedawna jeszcze.
Dans la mémoire des Polonais, de même que dans la mémoire des Roms, cette extermination n'avait pas de place jusqu'à récemment.
Musimy przypomnieć, że w każdej polskiej rodzinie poniesione zostały ogromne ofiary, a poza tym w każdym mieście, w każdej wsi wymordowano ogromne ilości Żydów i to głównie się pamiętało.
Il faut pas oublier que dans chaque famille polonaise, il y a eu une grande quantité de victimes et que dans chaque village, dans chaque hameau, de très nombreux Juifs ont été massacrés.
I może jeszcze należy dodać, że sami Romowie, którzy nie mieli żadnych instytucji, żadnych przedstawicielstwa, inteligencji, która by o tym pamiętała, nie mieli świadomości skali tej zagłady.
Et il faut aussi ajouter que les Roms, qui n'avaient pas leurs propres institutions pour mettre en ordre cette mémoire, n'avaient pas la perception de l'étendue du massacre.
W świadomości przeciętnego Roma, on pamiętał, że cała rodzina została wymordowana, czy cały tabor, natomiast nie mieli świadomości skali zagłady oraz ideologii, która temu towarzyszyła.
Chaque Rome se rappelait que toute sa famille, par exemple, avait été exterminée ou bien un camp entier, mais il n'avait pas l'idée de la dimension européenne du massacre et non plus de l'idéologie qui avait conduit à ce massacre.
Alors ce que me dit Marcel Courtiade, c'est que chaque année, au mois de juillet, vous faites des camps de mémoire dans votre région?
Tak, lipiec to jest taka data rocznicowa, ponieważ w lipcu 1943 roku w jednej z okolicznych wsi wymordowali Niemcy dużą osadę liczącą około 100 osób.
Oui, parce que c'est la période où en 44, la police allemande a tué une centaine de personnes dans un habitat rom.
Już w 65 roku miejscowi ludzie postawili tam pomnik, który uważamy za pierwszy na świecie pomnik poświęcony
pamięci Romów. Déjà en 1965, les habitants du village spontanément ont dressé un monument que nous considérons comme le premier monument au monde à la mémoire du génocide des Roms.
Oczywiście w wielu innych wsiach są również masowe groby, w których leżą pomordowani Romowie, ale ten jest takim symbolem naszej pielgrzymki.
Bien sûr, dans beaucoup de villages des environs, il y a encore des charniers de Roms, mais nous considérons ce village comme le symbole de notre pèlerinage.
À quoi ressemble votre musée, premier musée rom au monde?
Ta wystawa składa się z takich dwóch części. Jedna to jest część klasyczna w salach, gdzie prezentuje się historię i kulturę Romów.
Il se constitue de deux parties. La première dans des salles, qui est de présentation classique avec l'histoire et la culture des Roms.
I druga część to jest na dziedzińcu muzealnym jest rodzaj skansenu cygańskiego, a więc rekonstrukcja obozowiska z wozami, namiotami, ogniskiem.
Et à l'extérieur, dans une espèce de jardin, il y a une reconstitution d'un camp de cigane avec des roulottes, une collection de roulottes et de tentes.
I tam odbywają się plenerowe imprezy typu koncerty, wykłady. Stamtąd wyrusza nasz tabor.
Et là-bas, on a des événements culturels du genre conférences, concerts. C'est de ce point que parle le camp de la mémoire dont on a parlé tout à l'heure.
En deux mots, Marcel Courtial, parce qu'on est en train de parler des Roms, on en parle si peu, qu'on aborde une quantité de sujets à la fois. L'Europe, ce espèce de machin qu'on est en train de faire, change complètement la vie des Roms et la présence des Roms qu'on peut voir comme les premiers Européens et une espèce de métaphore vivante et ambulante de l'Europe.
Oui, c'est ce que disait Günter Grass aussi, que les Roms étaient ce que nous tendons tous à devenir, de véritables Européens.
Entre Europe et Rome, il y a presque une consonance.
C'est presque une rime, en tout cas une assonance.
Les Roms auront fait l'Europe avant tout le monde. Alors, on va revenir et on va finir avec Auschwitz, puisque c'est le thème de notre émission. Et puis, je rappelle encore une fois que à Auschwitz, c'est les chiffres que vous donniez tout à l'heure, il y a à peu près de 20 à 25 000 personnes qui sont passées par ce camp d'Auschwitz. C'était des familles, hein, c'était un regroupement familial.
C'est ça.
Sur, si mes renseignements sont bons, c'était 32 baraques où ces 20 et quelques mille personnes étaient
à Birkenau,
dans des conditions absolument épouvantables. Et donc, cette fameuse nuit du 2 ou 3 août 1944, 4000 de ces personnes, familles, femmes, enfants et hommes ont été gazés par les nazis. Lors de la libération du camp d'Auschwitz, je suppose qu'il n'y avait plus du tout de Roms dans le camp.
Non, il n'y en avait plus à ce moment-là. Il semble que lors de la Zigeunernacht, donc cette nuit où les 3900 Roms ont été gazés pour faire de la place dans le camp, très cyniquement, deux enfants auraient survécu qui ont été retrouvés le lendemain et abattus immédiatement. Donc on n'a pas de témoins directs.
Alors je reviens à ce mot qu'on a appris aujourd'hui, Samudaripen. On l'a entendu dans la bouche de Yetta Doka. Samudaripen, ça veut dire le génocide.
Le massacre de tous.
Oui, Marcel Courtial.
Oui, il est exact qu'au moment de la libération du camp de Auschwitz, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un petit peu un symbole. Pour quelque chose de beaucoup plus large, au moment de la libération du camp de Auschwitz, il n'y avait plus de Roms. Mais ceux qui étaient dans les autres camps, aussi bien en Pologne qu'en France, sont restés enfermés pendant plusieurs mois, et pour certains pendant plus d'un an. C'est-à-dire que tout le monde avait été libéré. Il faudra trouver une date aussi pour faire la, la cérémonie de la libération, puisque plus d'un an, ils sont restés enfermés et encore dans des conditions pratiquement comparables à celles qu'ils avaient connues sous le régime nazi. C'est aussi quelque chose qui est oublié. On a encore oublié les Roms et là aussi, on les a encore oubliés dans les camps. C'est-à-dire que votre phrase prend là une dimension plus que tragique. On les a oubliés pendant plus d'un an dans les camps, parce que administrativement, tout était bloqué.
Il est adocain.
Kam avte penav mate bistardiol via maro mudari pe kai mudari le amare roma te na bistardiol niko gadje te va chordiol pe ki televizia ta ko radio tai viko roma te na bistrene li amare chaveti kine te na bistardiol ka va mudari pe sos ke si bud bari duk kana shune vigila ta vika dikhe.
Ce qui est important, c'est que ni les Roms, ni les Gadjets, ni les autres n'oublient ce massacre des Roms, parce que c'est vraiment poignant, aussi bien quand on entend ces chansons que quand on voit ce qui s'est passé.
Merci beaucoup. Comment on dit merci ?
Auf Sastan.
Il y a une plaisanterie là-dessus. Dépanda.
Non.
C'est-à-dire, donne encore.
Non, Marcel, non, auf Sastan.
Non, mais on dit auf Sastan à un homme, auf Sasti à une femme.
C'était une nouvelle diffusion de l'émission du 28 janvier 2005. Merci à Marcel Courtiade, Yeta Lomka, Monsieur Bartoche et Awina Borghez. Toutes les informations ainsi que les références des ouvrages sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique Émission, là-bas, si j'y suis.
Pour toi qui n'aimes pas le monde, ni la vie, ni